RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, ça continue. C'est la troisième heure des Grandes Gueules. Si vous avez raté les deux premières heures, vous savez que vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez l'ensemble des discussions des GG, plus toutes les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pub. Donc je vous laisse découvrir ça. C'est la dernière heure des GG. On va parler de McDo qui débarque dans les villages maintenant, dans les petites communes. Les maires n'en veulent pas. Il y a notamment du côté de Saint-Amour, dans le Jura, où Madame la maire dit non au McDonald's. Ils disent qu'ils ont raison de faire de la résistance. C'est à midi moins 20. L'école commence trop tôt l'hiver. C'est Mathieu Kassovitz qui le pense. Il s'est confié dans un podcast RMC de Bérangère Bocquillon qui s'appelle « Mon école, mes profs et moi » sont les personnalités qui racontent leur scolarité. Et Mathieu Kassovitz, la grande gueule qu'on connaît, l'acteur, estime que l'hiver, il faut laisser les gamins un peu dormir. Ça sert à rien de les lever à 6h30 ou à 7h pour aller à l'école. Est-ce qu'il a raison? Vous venez en discuter avec nous dans un quart d'heure. D'abord, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il se retrouve face aux grandes gueules parce que la semaine dernière, au 32-16, lorsqu'on évoquait l'Iran et l'éventualité d'une frappe américaine, il était venu nous dire avec toute sa passion, toutes ses convictions, qu'il fallait intervenir pour mettre fin au régime des Mollahs. Il, c'est Eshan, qui est avec nous, commercial à Paris, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est ça. Bonjour Eshan.
Bonjour à tous, très content d'être là.
Parle bien au micro, Eshan. Avant de parler de l'Iran, quand même, c'est un peu copain d'avant dans les grandes gueules, oui. Parce que Eshan retrouve un camarade de classe.
Oui.
Quand vous êtes arrivé en troisième à Paris, vous avez débarqué dans un lycée catholique privé.
Et un lycée très chic, hein, il faut le dire.
Oui. Et dans votre classe, il y avait un certain Consigny, Charles,
oui,
Consigny.
Tout à fait.
Il était comment, Charles, à 13 ans, 14 ans?
Il me fascinait quand même.
Ah oui, déjà.
Oui, parce que c'était... Bon, c'était, on va dire que...
Il la ramenait déjà? Bon,
je vais être caché, il était entouré des filles, donc forcément...
Il était beau parleur déjà?
Non, il était pas beau parleur, mais c'était quelqu'un de très correct. Je pense, enfin, là, pour être sérieux, c'était quelqu'un... j'ai pas eu l'occasion de devenir vraiment très très ami avec Monsieur Consigny, mais c'était quelqu'un de beaucoup plus mature que toute la classe. Voilà. J'ai l'impression que ça me donnait.
Il est déjà vieux aujourd'hui,
ça vous rabat votre caquet.
Bah non, mais 70 ans, c'est
un témoignage objectif.
Disons qu'il s'intéressait à des choses que peut-être les d'autres élèves ne s'intéressaient pas.
Voilà, ça, c'est ce qu'on lit, tu vois, en général, dans les biographies de Napoléon.
Voilà, exactement.
Des grands personnages de l'histoire.
Voilà. il pourra témoigner lorsque Charles sera à l'Élysée. Et Eshan, plus sérieusement, oui. Parce que après le massacre qu'a connu une partie de la population iranienne, cette répression sanglante. Beaucoup d'Iraniens pensaient que les Américains allaient intervenir. D'ailleurs, Donald Trump avait dit « prenez vos institutions, Iraniens, j'arrive oui. ». Bon, finalement, il n'est pas arrivé, il n'y a pas d'intervention militaire iranienne, américaine. On parle plus de négociations avec les autorités iraniennes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par Trump?
Si M. Trump n'intervient pas, au moment venu, oui. À ce moment-là, oui, parce qu'en effet, comme vous avez dit, nous avons été très à l'écoute de l'Occident, parce que notamment les États-Unis, parce que c'est eux qui avaient pris la main sur le sujet. Et en fait, tous les jours, on écoutait les informations, on écoutait tout ce qui se passait en fait. Du coup, parce que les médias iraniens, nous, on n'écoute plus trop, parce qu'on fait plus confiance. Tout est mensongère. Et puis, du coup, on se fie à ce qu'on entend à l'extérieur. Maintenant, nous avons de la chance parce que nous sommes à l'extérieur. Mais les gens qui sont en Iran, ils n'ont même pas cette chance. Et c'est vrai que si M. Trump n'intervient pas, juste parce qu'il nous avait demandé de sortir et de continuer le combat, je pense que ça serait une forme de trahison, en effet.
Vous avez eu des témoignages de ce qui s'est passé sur place? Vous avez des retours maintenant?
Oui, mais beaucoup plus tard, du coup, parce que l'Internet était coupé. J'ai peu de famille en Iran, mais le peu qui reste, nous avons réussi à prendre contact avec eux par des différents moyens, enfin, comme on a pu. On a acheté des cartes et prépayé, enfin ce genre de choses. Donc c'était très compliqué. Et en fait, c'est même pas le massacre, parce que nous, on entend parler des massacres, mais c'est même après le massacre. Ça veut dire que on entend des choses qui sont.
Enfin, quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple.
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, bah, en fait, le régime, il contacte, enfin, les personnes qui vont chercher les corps, enfin, les personnes qui sont mortes. Le régime, en fait, il leur met la pression. Il leur demande soit d'accepter, par exemple, je vous donne un exemple, que leur fils, leur fille a travaillé avec des agents de Mossad. Ou alors il était en lien direct avec les États-Unis. Ou alors tout simplement, c'était un espion. À 17 ans, 18 ans, c'est un peu compliqué, mais ils veulent faire croire ça aux gens. Et en fait, ils disent ça, soit vous l'acceptez, soit on vous rend même pas le corps. Ça veut dire que vous pouvez même pas enterrer.
Un chantage.
Voilà. Vous pouvez même pas enterrer
Pour récupérer le corps de son fils ou de sa fille. Exactement. Pour accepter la propagande.
Ou alors ils demandent, par exemple, des milliers d'euros pour soi-disant les réparer tout ce qui a été cassé.
Donc, ce sont des jeunes qui sont à la morgue.
C'est plus des jeunes, oui. C'est beaucoup.
Et ces chiffres qui sont donnés, 30 000.
Honnêtement, c'est difficile de s'engager sur les chiffres. Je ne suis pas quelqu'un et je vais vous dire j'ai entendu telle chose ou telle chose, mais je vous parle juste de mon expérience de moi-même et de mon entourage. Et connaissant le régime islamique en Iran, ça peut être que pire. Ça peut être que pire. En fait, ils n'ont jamais eu cette peur, parce qu'il y a eu des manifestations, notamment pour Mahsa Amini, pour la liberté. Il y a toujours eu des manifestations. Sauf que c'est récemment, c'est lors de cette dernière manifestation que il y a eu vraiment un nom de remplacement. Les gens ont demandé à Khamenei de dégager. Donc ça, c'est vraiment la première fois.
Le pouvoir a eu peur.
Exactement.
Comme jamais.
Jusqu'à maintenant, c'était plus pour le hijab, c'était plus pour la liberté d'expression, c'était pour les journalistes, c'était pour Mahsa Amini, c'était pour des morts, des contrôles. Mais maintenant, on est arrivé à un stade où les gens, ils crient carrément le.
Mais il y a le.
La mort du guide.
Il y a le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et puis, il y a les gardiens de la révolution.
Ah, oui, bien sûr.
Qui sont partout dans le pays, oui. qui tiennent le pouvoir. Ils sont 200 000, 300 000.
Je pense qu'ils seront, même plus, peut-être.
Oui. Ouais, mais comment faire en sorte que eux-mêmes ne soient plus le pouvoir à côté du pouvoir?
En fait, si vous voulez, le guide suprême en Iran n'a plus la place d'un guide. Lui, c'est devenu un dieu pour les idéologistes islamiques. C'est lui. Après, peut-être, il y a le dieu, il y a d'autres personnes. Lui, c'est vraiment le top de la planète.
C'est la figure.
C'est le sauveur du monde. Et chose que je vais vous dire, c'est très important, parce que moi, je peux vous assurer que si on n'arrête pas le régime islamique en Iran, ce virus cancérogène va se propager partout dans le monde. Partout. Notamment en Europe, en France.
L'islamisme.
Islamisme extrémiste.
Mm-hmm.
Et toutes ces idéologies
d'intolérance.
Voilà. En fait, c'est même pas de l'islam. C'est des idéologies qui sont plus à la mode, quoi. C'est des idéologies de Moyen-Âge, quoi. Et j'ai peur que la France, justement, ou en Europe, on recule. Ça veut dire on recule et on retourne au.
Est-ce que vous avez compris la position française?
Vous avez d'autant plus raison que ce travail, c'est déjà le travail qu'a fait la République islamique d'Iran depuis 79.
Ah oui, bien sûr.
La République islamique d'Iran, avec différents proxys, le Hezbollah, c'est pas un proxy qui est né hier. Hein, ça fait longtemps qu'il le travaille, etc. Mais face à cet islamisme chiite qui avait réussi à imposer cet islam politique que les sunnites rêvaient d'imposer, c'est à ce moment-là que dans les années 80, fin des années 80-90, les Saoudiens ont sorti le wahhabisme, ont ressuscité le wahhabisme pour dire l'intégrisme, le fondamentalisme islamiste sunnite, il existe aussi. Et en fait, dans le monde entier, les diasporas musulmanes et les migrations musulmanes, elles se sont trouvées prises en étau entre le modèle chiite de la République islamique d'Iran, qui était quand même la seule réussite de l'islam politique, et le wahhabisme, qui lui aussi a commencé à transformer de l'intérieur un islam qui jusque-là était un islam tranquille, que vivaient tous les musulmans. Donc en fait, C'est pour ça que vous avez complètement raison. Dégommer la pieuvre, la tête de la pieuvre, c'est essentiel. Parce que s'être attaqué au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis, c'est une chose. Mais il faut taper la tête de la pieuvre. Et la tête de la pieuvre, elle a des effets jusqu'ici. On le sait, il y a eu des enquêtes. L'ambassade d'Iran en France, elle est tenue par des gardiens de la Révolution qui sont des espions et qui sans doute même auraient graissé des pattes dans le milieu politique français. Donc il faut absolument et dégommer ces gens-là. Est-ce que vous pensez justement, vous, que le fait d'inscrire les gardiens de la Révolution enfin, sur la liste des organisations terroristes, ça peut avoir un sens politique ou c'est juste du symbole ? Pour l'après, pour le jour d'après qui va arriver.
Déjà, c'est trop tard. Ça, je pense que il fallait le faire beaucoup plus tôt. Bon, on va prendre l'exemple, c'est jamais trop tard. Mais je pense qu'en fait, les gardiens de la Révolution, ou les pastarans, enfin, tous ces gens-là, maintenant, ils savent contourner. Ils savent contourner tout. Pendant longtemps, il y avait des embargos. Mm-hmm. Sauf que le fils du guide suprême, là, récemment, on a entendu, il a presque 100 millions
de dollars
d'appartements à Londres.
Mais vous savez que l'embargo est contourné.
Il en a 95 milliards.
L'embargo est bien contourné.
Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les négociations entre les États-Unis et l'Iran se déroulent à Mascate, qui est dans le golfe d'Oman, parce que c'est Mascate qui est le territoire qui aide les corrompus politiques iraniens à vendre le pétrole en Chine et à contourner l'embargo. Mais pour revenir un peu sur la question d'Olivier, on voit que Donald Trump, en plus, a fait une déclaration ce matin, laissant entendre que les négociations avançaient bien. Donald Trump est aussi, même peut-être plus intéressé par le fait que les Chinois achètent le pétrole iranien plutôt que les Américains malgré l'embargo. Il y a la question de la déception si Trump n'agit pas, mais que pensez-vous de la position de la diplomatie française ? Vous qui êtes un Iranien qui vit en France, n'êtes-vous pas dépité de voir cette impuissance manifeste ?
Je suis déçu. Tout simplement, c'est le mot que je peux dire. Nous, on comptait sur la France, on comptait sur... Sachant que la France était, entre autres, on va dire, un moyen pour Khomeini de venir en Iran. Les Iraniens, ça, on en veut beaucoup à la France.
Vous l'avez jamais oublié.
Ça, on en veut beaucoup à la France. On va dire que c'était le moment pour que la France se rattrape.
Après, a-t-elle vraiment des leviers, la France ?
Là, est-ce que vous espérez une intervention étrangère ? Est-ce que vous, vous auriez vu d'un bon œil que les Américains interviennent purement et simplement et brutalement comme ils ont pu le faire par le passé, pour le meilleur et pour le pire, parce que on a vu que parfois ça a pas donné grand chose. De même, la France, quand elle est intervenue en Libye, on a sans doute évité des bains de sang, mais après derrière on a laissé un pays en lambeaux. S'il y avait une intervention étrangère pour faire cesser les massacres en cours en Iran, est-ce que vous pensez que derrière la société civile et le monde politique iranien seraient suffisamment organisé pour que le pays ne bascule pas dans le chaos, mais parvienne à convoquer des élections ou au moins que quelqu'un de légitime prenne le pouvoir, le monarque en exil, que sais-je.
Alors, comme j'ai dit aussi la dernière fois que j'étais sur le plateau de BFM, c'est très difficile, c'est pas facile de demander à un étranger d'intervenir chez vous, de vous aider pour vos problèmes de chez vous, de personnel. En tant que patriote, voilà, c'est pas facile. Mais on va dire que l'Iran est constitué de plein de tribus différentes. Ça fait des milliers d'années qu'ils vivent sous le même toit, on va dire. Et on n'a jamais eu besoin de quiconque pour être unis.
Exactement.
On a toujours eu des problèmes sociaux, politiques, des problèmes économiques, comme partout. Sauf que, au moment difficile, les Iraniens, ils ont su rester unis. Et ils ont su rester unis.
Et patriotes.
Notamment lors de la guerre de l'Irak. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore contre la révolution, mais ils ont quand même pris des armes, ils ont quand même défendu le pays. Donc, et on est arrivé à un stade en fait que, en fait, ils volent notre argent, ils volent notre richesse. On n'a plus rien chez nous. Un pays de 5000 ans de civilisation, l'une des premières civilisations au monde, on se retrouve à même pas avoir de l'eau. Mmh. Vous vous rendez compte?
Donc,
on vend de l'eau en bouteille à l'Arabie Saoudite. Mmh. On vend de l'or, tout ce que vous voulez.
Vous souhaiteriez une intervention extérieure.
Oui, alors.
Vous voudriez que les Américains, les Français.
Parce que la différence, c'est quand même que l'Irak, la Libye, la Syrie, etc., c'était des États qui étaient faillibles et qui n'étaient pas des grandes nations.
Exactement.
Comme vous êtes une grande nation. Parce que si demain l'Iran est libre, l'intelligentsia iranienne, c'est quand même, excusez-moi, je veux pas être méchant avec les Irakiens, mais enfin, c'est quand même un autre niveau que les Irakiens ou que les Jordaniens, etc. Vous avez, vous êtes une grande civilisation, un grand peuple.
Mais qui pour faire la transition, alors? Le fils du chat?
En fait,
juste
je voulais.
Pour la transition.
Oui, oui, juste pour la, même lui, il le demande, en fait.
Oui.
Nous, on n'est pas pour une monarchie, on n'est pas pour, en fait, on sait même pas pour le moment. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas ce qu'on veut. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être ça qui pose problème.
C'est peut-être la faiblesse voilà. De ce mouvement.
Parce que les gens, en fait, si vous voulez, on arrive à un stade, on est en train de vivre chez les fous, et du coup, on veut juste, dans un premier temps, si, échapper.
Si Trump passe un accord, il va passer un accord avec le pouvoir en place en Iran, peut-être qu'il obtiendra la désescalade nucléaire et le renoncement du pouvoir en place à l'arme nucléaire, en tout cas peut-être un truc de façade, un moratoire, enfin que sais-je.
Que Barack Obama avait obtenu et que Trump avait défait.
Mais ça, pour vous, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça maintiendrait au pouvoir ceux qui sont en place. Donc vous, votre intérêt, c'est qu'en fait, les négociations échouent. Et que Trump, effectivement, envoie des avions pour bombarder les sites gouvernementaux et militaires iraniens.
Avant la guerre des.
Et la France devrait le faire aussi, d'ailleurs.
Oui.
Avant la guerre des 12 jours, Trump était déjà soi-disant en train de négocier. Tout le monde pensait qu'il négocierait et dimanche matin, paf, il a tapé.
Oui, mais donc,
j'aimerais bien juste ajouter deux choses. Déjà, par rapport à l'accord, personne n'y croit à l'accord. Parce que l'accord, si c'est signé, c'est la mort du régime islamique. Ils doivent reconnaître l'Israël. Ils doivent arrêter les missiles. Ils ne vont jamais le faire. Ils sont là pour ça. C'est les piliers de la République islamique. C'est comme si vous demandez à la République islamique de laisser les femmes se balader comme elles veulent. C'est la mort pour eux. Donc ça, déjà, j'y crois pas. Deuxième chose, il y a plusieurs manières d'intervenir dans un pays. Nous, ce qu'on demande aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, à tout ce que vous voulez, c'est d'aider le peuple. Nous, on ne demande pas...
L'armée ?
Voilà, on ne demande pas...
Non, mais vous demandez...
Non, ni l'armée, parce que même l'armée, elle est corrompue. Même l'armée, elle est corrompue.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que vous demandez qu'on arme le peuple ?
Exactement. Ça, pour libérer l'Iran, il y a deux choses. Il y a deux solutions. Soit armer le peuple, soit armer le peuple. Tout simplement. On peut pas faire autrement.
Là, comment est-ce qu'on peut armer le peuple quand on a deux armées, l'armée iranienne corrompue, comme vous dites, et l'armée des Pasdaran, qui est complètement fanatique et qui, là, a massacré les manifestants comme jamais. Donc, aujourd'hui, même, je veux dire, si demain, parce que des agents sur place, à part le Mossad, il n'y en a pas. Parce que même la CIA, ils ne sont pas sur place. Oui. Les seuls agents, on va dire, de services secrets qui existent, qui seraient sur le sol iranien, c'est le Mossad. C'est pas les agents du Mossad qui vont aller leur donner des armes.
C'est
donc,
sûr.
Comment faire
c'est
pour
sûr.
Donner les armes?
Mais juste pour vous dire quelque chose, quand je demande d'armer le peuple, c'est de mettre la peur entre les Pasdaran. Eux, ce sont des gens qui croient en guide suprême. S'ils voient la faiblesse de leur côté, s'ils voient qu'ils sont en train de mourir, s'ils sont en train de perdre leur vie pour ça, je peux vous dire que c'est des gens très très peureux. Hein. C'est pas des gens.
Donc vous pensez par exemple qu'il faudrait taper le guide suprême,
Guide suprême. Ça déjà c'est la première chose.
Il y a un autre scénario.
Et c'est un soulagement.
Vous savez qu'il pouvait tuer le guide suprême dans la guerre des 12 jours. Non. Il l'avait en ligne de mire et Trump a dit non.
Il y a un scénario.
Exactement.
Il y a un scénario qui est possible, c'est la révolution de palais, révolution de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on met de côté les plus radicaux et on met un pouvoir plus souple. C'est possible.
Mais le problème, c'est déjà en cours. Il y a Moussavi, il y a Karoubi, je ne sais pas si vous connaissez, qui ont été en prison jusqu'à maintenant. Ils sont en train de prendre des ailes pour revenir au pouvoir, soi-disant démocrates. Sauf que ces gens-là, ils ont aussi du sang sur les mains. Ça fait des années qu'ils sont calmes parce qu'ils sont en prison. Mais il y a quelques années, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vu, lors des manifestations des étudiants à Amir Kabir en Iran, ils ont jeté tous les étudiants du toit des immeubles. Tous les ingénieurs. On en a perdu des milliers d'ingénieurs là-bas. Parce que c'était une fac d'ingénierie. Et c'était ces gens-là qui étaient au pouvoir. Ils vont dire quoi maintenant aux gens?
Oui, mais enfin, regardez, en Syrie,
merci.
On a un ancien djihadiste d'Al-Qaïda qui maintenant se met un costume cravate et il est tout gentil,
soi-disant. Merci à Eshan, donc, que l'on avait écouté attentivement la semaine dernière au 32-16, qui est venu dans les GG évoquer la situation en Iran et retrouver son ancien camarade de classe, Charles Consigny. Merci, Eshan. On a posé la question, est-ce que Donald Trump, les États-Unis doivent intervenir? Ce que vous en pensez, c'est un oui pour... aux deux tiers, hein, à 61%. Merci Eshan. Dans un instant avec Barbara Le Pen, Abel Boyi et Charles Consigny. Est-ce qu'il faut l'hiver faire lever les enfants un peu plus tard? C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec nous. Ça a été le coup de gueule de Mathieu Kassovitz.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, Barbara Lefebvre, Charles Consigny, Abel Boyi, l'éducateur, l'avocat et la professeure d'histoire géographie. On va s'intéresser à un coup de gueule. Le coup de gueule de Mathieu Kassovitz qui a discuté avec Bérangère Bocquillon sur RMC dans son podcast Mon école, mes profs et moi sont les personnalités qui racontent leur parcours scolaire, disent ce qu'ils pensent de l'école d'aujourd'hui. Et voilà ce qu'a dit Mathieu Kassovitz.
Obliger les mômes à se réveiller à 7h du matin en hiver pour aller à l'école à 8h, de marcher pour aller au bus le matin à 7h30, ce n'est pas normal qu'on fasse ça à des enfants. Si tu dois aller à la mine, oui, effectivement, il faut que tu apprennes à te lever à l'aube. Ok, je peux comprendre. Mais on a d'autres options aujourd'hui. On n'est plus dans les années 50. Oui, on a toujours l'éducation des années 50.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est Sacré Charlemagne.
Vous pouvez d'ailleurs dans le podcast de Bérangère Bocquillon retrouver certaines de nos GG qui racontent leur école, leur parcours scolaire et la preuve avec Yves Candebord, le cuisinier, et Emmanuel Devillier, le chef d'entreprise. Et là, vous avez entendu le coup de gueule de Mathieu Kassovitz. L'hiver, ça sert à rien de lever les gosses aussitôt que cela, quoi.
On pourrait peut-être faire la distinction entre les petits et les collégiens, les lycéens, parce que les petits, de toute façon, ils se lèvent tôt, hein. Enfin, si vous avez des enfants, vous savez que quand ils ont entre 3 et 7 ans, ou 3 et 6 ans, ils se lèvent quand même assez tôt, même trop tôt parfois pour les parents. En revanche, les collégiens, les lycéens, moi, j'ai jamais compris ce rythme scolaire qui correspond pas physiologiquement au rythme des ados. Les ados, ils ont besoin de beaucoup dormir, ils ont besoin de voilà, et comme ils se couchent peut-être trop tard, et ça c'est un problème notamment avec les réseaux sociaux, les portables, bah c'est sûr qu'ils se lèvent le matin, ils sont complètement à la ramasse, et donc ensuite ils se retrouvent...
C'est ironique ce que tu dis là, rassure-moi.
Ils se retrouvent devant Barbara Lefebvre. Vous imaginez,
qui les réveille toujours très très bien.
Voilà, vous imaginez, vous avez 15 ans. Non, imaginez-vous, vous avez 15 ans. Bon, le week-end, vous dormez jusqu'à midi. Le lundi matin, vous devez vous réveiller à 7h et vous vous retrouvez à 9h avec Barbara, comme prof d'histoire, qui tout de suite vous met une interro surprise, voilà, bien entendu, interroge, alors que vous êtes à peine réveillé, vous êtes là complètement...
Justement, et ben moi, ils sont bien réveillés, en l'occurrence, c'est le mercredi.
Tu dois faire en plus un commentaire sur ta tenue, tenez-vous mieux.
Ah oui, ça, oui, voilà. Relève-toi, t'as une colonne vertébrale, etc. Enlève ta doudoune.
Voilà.
Et sors ton crayon, et sors ton cahier, parce que sinon ça va gueuler. Et je gueule un bon coup, et là, tout d'un coup, tout le monde est réveillé, les deux yeux grands ouverts. Ah, ça y est, il est 8h02. Oui,
mais tu vois, Mathieu Kassovitz parlait de travail à la mine, ça ressemble un peu à ça quand même.
Donc en ce moment, on est sur le lever du soleil, 8h20, coucher du soleil, on est vers 17h45, oui. Donc on fait quoi? Non, mais 8h20, ça veut dire qu'il faut qu'ils se lèvent à 8h20, donc ils arrivent à l'école vers 10h.
Oui.
On les met à peu près au travail. Comateux.
Bah, tu peux te mettre à
10h. Et donc, dès 17h30, faut qu'ils rentrent parce que les pauvres, avec la nuit, bien sûr. Non, mais là, ça va vraiment pas la tête, hein. Donc, on va, aussi leur donner, donc, cette habitude que il faut ajuster le temps scolaire qui est un temps collectif, où déjà tu apprends quelque chose qui est de l'ordre de je ne suis pas dans mes propres intérêts, mon nombril, je me projette dans un truc qui s'appelle le groupe classe, qui s'appelle la communauté scolaire.
Le temps scolaire, il est surtout adapté aux adultes, hein, pardon.
Mais moi, je suis par
les
exemple
vacances scolaires, c'est pour les
non,
adultes.
Mais moi, je suis pour une journée qui fait 8h, 13h30, 8h, 14h, et ensuite que des activités sportives et culturelles l'après-midi.
Que je milite, c'est
donc
ce que
le temps scolaire,
dire,
il faut effectivement le retravailler c'est complètement. Mais on va pas aller envoyer les gamins en fonction de leurs hormones, parce que c'est l'adolescence. Moi, je vais te dire, un ado, ça se couche. T'as qu'à le coucher à 9h et il va dormir à 9h. Si t'es pas parent, c'est pas de ma faute. Moi, je suis désolée, ma fille, elle est couchée à 21h.
Oui, mais enfin, elle ne s'endort pas à 21h.
Peut-être qu'elle s'endort à 21h30, mais crois-moi.
Quel témoin, quel 32-16.
Tu sais pourquoi? Non, parce que justement, elle commence très tôt le lycée, donc elle se lève à 6h30. Du coup, le soir, effectivement, oui, elle est fatiguée.
Oui, mais
elle
se couche.
Il n'y a pas de téléphone au lit, je suis désolée.
Heures, mais elle ne s'endort pas à 21h.
Bah, elle s'endort vers 21h30, elle s'endort parce qu'elle a effectivement besoin de sommeil.
David...
Non, c'est les parents qui ne savent pas gérer. Et monsieur, alors, à moins que Mathieu Kassovitz veuille qu'il puisse aller à l'école après avoir dealé.
Non, mais surtout.
David, attendez. David, bonjour.
À quoi ? Bonjour.
Bienvenue, David, agent de production dans la Drôme à Saint-Vallier. D'accord avec Mathieu Kassovitz ou pas alors ?
Ben oui, dans le sens où j'ai un enfant, moi, qui a un TDAH. Et il se couche tous les jours à 20h et on le lève tous les jours vers 6h pour l'emmener à l'école. Et il a des journées assez compliquées parce qu'il doit lutter tous les jours contre son hyperimpulsivité, ses problèmes d'attention. Et il a un dossier à la MDPH. Il est donc, son TDAH est avéré, a été validé, sauf que il se retrouve dans une école et là malheureusement il a le même nombre de devoirs et de leçons qu'un élève dit normal. Alors là, il est en quatrième, il a 13 ans et c'est une année effectivement charnière qui est très compliquée pour lui actuellement. Alors il y a eu des problèmes en début d'année parce que on lui a enlevé des heures d'AESH. Il est passé de 12 heures à 4 heures et on l'a remplacé avec un ordinateur portable. On s'est battu avec sa maman pour essayer de récupérer ces heures-là et effectivement, au bout de 3 mois, on a réussi à récupérer ces heures-là. Mais tous les jours, c'est extrêmement compliqué pour lui. Alors, bien sûr, en termes d'horaire, il commence la journée.
Excusez-moi, David, mais votre fils est un cas particulier. Voilà. Il a un TDAH, il est à la MDPH. Peut-être qu'une structure Ulysse lui conviendrait mieux. On ne va pas tous se lever à 10 heures parce qu'il y a un ou deux élèves qui
est TDAH. Sur le papier, l'école est là pour te préparer à la vie active. Tout à l'heure, on parlait du fait que quand l'enfant arrive en terminale, c'est beaucoup trop tard parce qu'il a accumulé trop de lacunes. L'autre erreur de l'éducation nationale, et je vais revenir sur ce que tu disais par rapport aux horaires.
Parlons du lever des enfants. Est-ce qu'il faut les faire démarrer l'école
à quelle heure ils démarraient les tiens?
Bon, il démarre à 8h30.
Ah oui,
hein. 8h30. Et moi, ma fille au lycée, elle mettait une heure pour y aller. Elle prenait le bus et compagnie parce que
donc elle se levait à quelle heure?
La campagne où on habite, elle n'en est pas morte.
Elle se levait
à 6h, elle n'est pas morte, elle n'est pas tombée malade. Ce qu'il faut aujourd'hui pour l'école en termes de rythme, effectivement, c'est cours le matin et activités sportives et culturelles l'après-midi. Oui. Et je vais même plus loin, l'indépendance des établissements dès l'école primaire pour laisser les professeurs être, faut laisser leur folie créative se manifester. Voilà. Peut-être que tu as des établissements scolaires où tu as besoin d'uniformes. Peut-être pas. Peut-être que tu as des établissements scolaires où ça doit rester comme aujourd'hui. Mais il faut laisser les professeurs prendre la main et à l'éducation nationale, c'est la bureaucratie qu'il a aujourd'hui.
Non, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. Je pense que le vrai sujet, c'est le fait qu'il y ait trop de cours au collège. En réalité, le vrai sujet, il est plus là que sur l'heure à laquelle les enfants commencent l'école. C'est le fait qu'il y a tellement de cours au collège que les professeurs affrontent des collégiens complètement assommés l'après-midi, alors qu'il faudrait effectivement leur faire faire du sport, leur faire faire des activités culturelles X et Y, et pas les assommer avec des cours qu'ils n'arrivent pas à enregistrer. Quitte à faire une année un tout petit peu plus longue, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que l'année maintenant, elle commence fin septembre et elle se termine début mai. Non. C'est quand même ça maintenant l'année scolaire.
Non.
Avec 15 jours
de
vacances toutes les semaines, c'est quand même ça maintenant l'année scolaire. Je suis désolé.
Par contre, oui, il a raison, Charles. Il faut rallonger.
Ça, je suis désolé. Moi, l'année, je te la ferai commencer fin août et elle se termine pour de vrai fin juin. On essaye d'apprendre quelque chose entre les deux.
Oui, mais pardon.
S'agissant du jeune Kassovitz, je pense qu'il confond. Et en fait, c'est lui qui n'arrive pas à se lever le matin parce que forcément, quand vous êtes un comédien branché Chouillas qui travaille 3 mois dans l'année, je le dis en toute amitié, avec beaucoup de respect et de sympathie. C'est un peu relou de se lever tôt, voilà, parce que la veille vous vous avez refait le monde jusqu'à 3h du matin.
Les rythmes scolaires.
Il n'arrive pas à se lever pour ses enfants. Bah
là, si vous refaites le monde avec d'autres intermittents du spectacle, jusqu'à 3h du matin, tous les jours, la révolution, Che Guevara, et nani, et nana, le matin, c'est dur d'emmener son gosse à l'école pour que lui devienne quelqu'un d'à peu près construit et cérébré.
Les histoires de rythme scolaire, pardon, mais depuis la naissance des Grandes Gueules, oui. On a nos GG qui nous disent qu'il faudrait faire le matin les cours fondamentaux,
vous savez.
Maths, français, histoire, et puis les langues, et puis l'après-midi, sport et activités culturelles. On n'a jamais réussi à mettre en place
depuis
ça.
Le temps
et pourtant,
que je vote,
dans certaines écoles privées, ça existe. Oui.
Depuis le temps que je suis électrice, je lis systématiquement tous les projets de présidentiable sur l'école. Il n'y en a jamais eu un seul qui a proposé ça. Jamais eu un. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que, oulala,
il faut changer,
les profs vont gueuler, les syndicats vont gueuler. Ouais, il faudrait du courage pour le faire. Alors, ça. Maintenant, je veux juste dire une chose. Donc, pendant que M. Kassovitz...
Très peu entendu Barbara, je trouve, ce matin.
Pendant que M. Kassovitz veut que tout le monde se lève à 10h, pendant ce temps, les Sud-Coréens, ils se lèvent à 6, les Japonais, ils se lèvent à 6, les Chinois, ils se lèvent à 6.
Les Japonais, donc deux semaines de grandes vacances.
Les Américains, ils se lèvent à 6, les Allemands. Tout le monde va se lever tôt, mais heureusement, le français va dormir.
Moi, j'aimerais bien, si ça vous embête pas,
c'est la France.
Non, mais attends, Alain, je voudrais qu'on fasse une émission complémentaire en podcast pour rattraper du temps de parole de Barbara. Parce que je trouve qu'elle a été censurée ce matin. Voilà. Et moi, j'en veux un peu plus. Et je pense que les auditeurs.
Des gens qui appellent en disant Barbara est toujours dans l'émission.
Je voudrais qu'on fasse au moins 2 heures de podcast avec que Barbara.
Est-ce que nos enfants se lèvent trop tôt? Est-ce qu'il a raison, Mathieu Kassovitz? C'est l'hiver. Il faut que les enfants se lèvent un peu moins tôt. Pas d'accord avec Mathieu Kassovitz à 80%. Suite et fin des GG dans un instant. McDo fait une offensive pour débarquer dans les villes moyennes et les villages. Certains entrent en résistance, comme du côté de Saint-Amour dans le Jura. Contre la malbouffe, dit Madame la maire, il ne faut pas que ça tue nos petits restaurants de village. Est-ce qu'elle a raison? 32-16 pour conclure les GG avec nous là. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules, rejoignez-nous au 32-16 pour nos 10 dernières minutes de discussion là avec Charles Consigny, avec Abel Boyi et Barbara Lefebvre, notamment pour parler de quoi ? Parler de la résistance contre McDonald's. Vous allez me dire, la résistance contre McDonald's, le combat, il a été plié et il a été gagné par l'enseigne américaine depuis quasiment 50 ans. Sauf que McDo, qui a déjà 1500 restaurants aujourd'hui à travers le pays, veut se développer maintenant. Où ça ? Dans les campagnes. Et c'est là qu'on a des villageois qui disent pas de McDo chez nous, et notamment à Saint-Amour, dans le Jura.
Oui, où à chaque fois, les élus tentent d'empêcher l'implantation de McDo dans les villages et les bourgs français. Mais en fait, ces voix ne pèsent pas très lourd parce qu'il y a une demande. Pardon, mais si McDo s'installe même dans un village dans le Jura, c'est qu'il y a une demande, il y a une clientèle et que le géant du fast-food est partout. C'est le premier restaurant de France, c'est un McDonald's. Hein. Donc il y a l'emploi en plus à la clé. Donc au lieu d'être dans ce côté réflexe gaulois, non, pas McDo, on devrait s'interroger pourquoi ça fonctionne, McDo. Pourquoi, d'une manière générale, la restauration rapide a envahi nos villes et maintenant nos villages? Pourquoi cette formule de manger vite, ça fonctionne? Pourquoi les jeunes, et pas seulement les jeunes, parce que je sais pas si vous allez chez McDo, mais quand tu vas chez McDo, il y a toute la France. Hein. Pardon, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a la famille, des vieux, etc. Pourquoi ça remplace nos restaurants? C'est ça la vraie question.
Parce que en fait, là, ce qui se passe à Saint-Amour dans le Jura, c'est qu'ils vont s'implanter à l'entrée du village à côté d'un supermarché. Mmh. Et du coup, tout le monde, s'ils se mettent là, les gens ne viendront plus dans le village, petite auberge ou dans le restaurant.
Déjà, ils
ne
viennent plus parce qu'il y avait le supermarché.
Qu'est-ce que t'en penses, Charles ?
Ça m'arrive d'aller au McDo de Dole le vendredi soir. Vous seriez surpris. C'est très sympathique. Les gens viennent en famille. Il y a du monde. C'est tout à fait bon enfant. C'est une espèce de sortie de la semaine avec les enfants et franchement je trouve que c'est plutôt positif. Je vais vous dire pourquoi. C'est que les restaurants traditionnels, il faut aussi qu'il fasse le boulot d'attirer le chaland. Or, quand vous vous présentez dans un restaurant en province, vous arrivez à 14h15. Ah non, la cuisine est fermée. Ah non, 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 on ferme la cuisine. Ah bon, mais même un croque-monsieur. Ah non, 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 non. Donc c'est le truc, vous pouvez pas... aller au McDonald's à 16h, vous pouvez commander ce que vous voulez. Ça fonctionne. Pareil sur le prix, je suis désolé, mais McDo, quand on a toute une famille et tout, c'est pas cher.
C'est
donc c'est au resto aussi de faire un petit effort et de proposer des menus qui soient pas trop chers pour tout le monde. Et puis par ailleurs, c'est une mode. C'est vrai qu'en ce moment, les gens adorent les hamburgers, c'est comme ça.
C'est une mode qui dure.
C'est une mode qui dure, oui, c'est vrai. Mais voilà, moi je trouve que je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier. C'est pas c'est pas un traumatisme. Au contraire, c'est aux autres restaurants de faire l'effort de se rendre accueillant, la sexy.
La force de frappe économique d'une multinationale comme McDo. Moi, je suis d'accord avec toi.
Moi, je préfère d'ailleurs qu'il y ait un McDo plutôt que rien.
C'est des Français qui tiennent ça.
Peu importe, c'est des franchisés, mais ils ont quand même une force de frappe, le marketing, etc. C'est payé, ils le payent dans leur franchise. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, théoriquement. Mais le petit restaurateur ou même le petit boulanger qui voudrait faire un petit snack, lui, il a pas les charges et la force de frappe de McDo. McDo, ils ont une capacité à permettre à leurs franchisés, justement, d'abaisser les prix. Et par ailleurs, moi, je veux bien manger vite. Et un autre problème avec McDo, c'est manger mou.
Devenir mou, plutôt.
Oui, mais non, c'est un vrai problème aujourd'hui, le fait que les gens aient l'habitude de pas mâcher. On mange du mou, avec des goûts universels, uniformisés,
mais ça, c'est
avec
pas
le
qu'au
sucré.
McDo qu'on mange
mou. Ce n'est pas bon du tout pour la santé.
On mange mou partout.
C'est
pas qu'au McDo
qu'on mange. C'est de plus en plus un problème. Les dents,
ils viennent de ressortir
beaucoup.
Le triple cheeseburger.
C'est très mou.
Le triple mou.
Mais c'est délicieux. Non, je le recommande à nos auditeurs, parce que autant le Big Mac, c'est toujours la même chose.
Le triple cheese,
c'est du lourd.
Oui, mais justement, parce que j'allais y venir, manger mou, c'est justement ce qui permet aussi pas de ressentir la satiété. Oui, quand tu mâches un sandwich,
c'est vrai qu'une demi-heure en fait encore faim.
Tu mâches. Le McDo, tu l'engloutis parce que c'est
bon. La limite de
n'importe quel diététicien te dira déjà, si vous voulez maigrir, monsieur ou madame, mangez des choses qui se mâchent, par exemple
manger
la viande, pas du beefsteak haché, de la vraie viande que vous coupez. L'intérêt des McDo, c'est que tu ne mâches pas, t'engloutis, donc t'as toujours faim et tu vas continuer.
Quand tu sors, en général, une demi-heure après, t'as encore faim.
Et ben voilà. Donc tu recommences et tu remâches.
Tu manges mou, Abel.
Vous n'avez pas l'obésité après.
En tout cas, quand je sors du McDo, j'ai pas faim une demi-heure après, mais surtout, comme a dit Charles, faut s'adapter à son temps. Pourquoi est-ce que McDo plaît autant? Pourquoi est-ce qu'au niveau de la restauration française, on n'est pas capable de créer une formule de restauration rapide qui puisse, à défaut de faire concurrence, ramener du monde? Et la réalité, c'est que pour les élus locaux, ça va doper l'activité économique. Parce que tous ces petits restos de campagne, effectivement, je veux bien, moi j'habite dans un bourg, il y a deux petits restos, ils sont vides les trois quarts du temps. Et quand tu passes, il y a 10 personnes, c'est un miracle.
Et c'est bon au moins ou pas?
Je suis jamais allé, pour te dire. Je n'y suis jamais allé.
C'est pas tentant.
Tu vois la devanture, il y a un côté très vieillot, alors que t'as besoin de quelque chose de dynamique, surtout pour les jeunes. On vit dans un monde qui a changé, et cette restauration traditionnelle aussi, commercialement dans sa communication, doit se réadapter.
Mais souvent, le McDo, c'est le seul truc ouvert. Ça m'arrive d'aller à Fleury-Mérogis, par exemple.
Voir tes clients.
L'autre partie de mon existence, d'aller voir des clients.
Tous tes clients
qui sont injustement incarcérés à Fleury-Mérogis. quand vous sortez de Fleury-Mérogis, bon courage pour trouver un resto correct dans le coin. Alors qu'il y a un McDo qui est là, flambant neuf, vous savez à quoi vous attendre. Ils servent toute la journée. Voilà, ça vous réconforte après votre parloir à Fleury-Mérogis.
Le côté uniforme.
Et les frites du McDo,
la nourriture uniforme,
Jérôme, bonjour.
C'est les nuggets.
Alors attendez, parce que Jérôme nous appelle d'Isère.
Le chausson, pas
Il est équipier McDo. Bonjour, Jérôme. Est-ce que vous pensez que ces petites communes, notamment dans le Jura, ont raison de faire de la résistance ou pas? Alors, dites-moi.
Pour moi, non, parce que moi, je vous explique, parce que moi, c'est vrai que McDo nous a beaucoup aidé avec ma femme, parce que, comme je disais aux standardistes, en fait, nous, le truc, c'est que moi j'ai un enfant handicapé et donc c'est compliqué avec l'école, avec les rendez-vous, tout ça. Et grâce à McDo, en fait, on peut avoir un emploi en ayant, en fait, pour suivre les rendez-vous de notre fille, tout ça, avec son autisme, tout ça. Et le problème, c'est que c'était la seule alternative qu'on avait pour travailler, en fait.
D'ailleurs, pourquoi pour les horaires?
Oui, pour les horaires, parce que en fait, le truc, c'est que ma femme a travaillé sur McDo et en fait, pendant qu'il y en a un qui est au boulot, l'autre peut bosser, en fait, ainsi de suite.
Donc, vous avez trouvé chez McDonald's en tant qu'employé des horaires adaptés à votre vie personnelle par rapport à votre enfant.
Voilà, c'est d'accord. Ça, parce que moi, pendant 10 ans, j'étais vendeur de cigarettes électroniques où j'étais épanoui, mais j'ai dû quitter mon emploi par rapport à ça, en fait, parce qu'entre les rendez-vous, parce que le problème, c'est qu'on est en attente d'une IME, mais bon, bah, l'IME, c'est 5 ans d'attente, un minimum.
Mais est-ce que travailler chez McDo, c'est sympa?
Bah, franchement, oui. Après, c'est vrai que, bah, moi, j'ai la quarantaine. Au début, c'était un peu compliqué de travailler avec des jeunes, mais bon, finalement, il y a quand même une bonne ambiance.
C'est hygiénique ou pas? Personne crache dans les hamburgers?
Non, franchement. Franchement, on peut pas dire, franchement. Mais moi, j'étais le premier à dire ça. Et franchement, depuis que je travaille, franchement, en termes d'hygiène, ils ont tellement peur d'avoir des soucis que on a des contrôles assez régulièrement. Mmh. Franchement, on est vraiment.
Jérôme, là, vous êtes implanté dans le département de l'Isère, du côté le pont de Beauvoisin, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Donc c'est un peu hors agglomération ou pas?
Ouais, c'est ça. Ouais, bah nous on est à la campagne. Hein, c'est parce que bah moi à l'époque.
Et il n'y a pas eu de mouvement de résistance pour dire non, on n'en veut pas parce qu'il y a des petits restos qui sont là et tout.
Non, franchement non. Et puis en plus, moi je trouve que ça met un peu de la vie parce que bah il y a les jeunes quand ils sont en vacances, bah ils viennent au McDo au lieu de traîner dehors, bah ils sont au McDo, il y a quand même on a quand même des trucs, voilà, c'est au moins, et puis même je trouve que ça apporte un peu de vie un peu aussi dans un village. Donc ouais, et puis surtout c'est même pour les jeunes, il y a des jeunes qui sont à l'école, bah ça se passait pas bien, mais ils sont venus bosser au McDo et puis ça leur donne une chance en même temps pour pouvoir avoir plus tard une chance de d'évoluer plus tard et après de voilà, c'est parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté et que grâce à McDo ça leur a fait un tremplin pour pouvoir évoluer un peu plus.
Vous voyez, Moi, j'entends tout à fait ce que vous dites, hein, c'est pas le problème, mais vous voyez l'état dans lequel se trouve la France. C'est-à-dire pays dont l'image, c'est la gastronomie, on a McDo. Il n'y a pas d'emploi. Heureusement que McDo propose des emplois. Pour les jeunes qui sont en errance, alors on va chez McDo. Mais en fait, ce pays n'a rien à proposer qui lui soit propre, qui soit français. C'est-à-dire qu'on se dit, on pourrait développer un modèle français de quelque chose. Ben non.
Parce que pour affronter le modèle social français que le monde entier nous envie,
exactement,
il faut avoir les reins d'une multinationale.
Exactement.
C'est ça la réalité. Mmh. Si vous êtes un indépendant en France, vous ne pouvez pas affronter le niveau de fiscalité qu'on vous met dans la gueule.
Voilà. Merci à Jérôme d'avoir été des nôtres. Merci Jérôme de votre témoignage. Merci. Est-ce que
on n'a pas parlé de Starbucks, mais Starbucks c'est excellent aussi.
Est-ce
J'espère
que McDo
qu'on en parlera.
Des fois,
est-ce que McDo qui débarque dans les villages, est-ce qu'on dit stop ou on dit super? On va voir ce que vous en pensez. Dites bonne nouvelle, non. Vous dites stop à 57%. Mais enfin, il y a quand même
43% sont tous des consommateurs de McDo.
Pas du tout, moi, j'ai jamais.
Merci à tous.
Moi, je reste cohérente avec moi-même.
Tu peux les cuisiner toi-même, les burgers aussi.
Mais je mange pas de viande.
Ah oui, c'est vrai.
Je vais faire un burger végétarien.
Tout à fait, je m'en fais.
Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Ben écoutez, on va continuer de débattre dans Estelle Midi. On va parler de ce CDI spécial jeunes, plus flexibles et moins bien payés. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, venez en débattre avec nous au 32-16. On parlera également d'un boom, le boom des mariages no kids. C'est-à-dire qu'en fait, tu te maries et t'invites pas les enfants. Alors ça, c'est la nouvelle tendance. Au salon du mariage ce week-end. Mais pourquoi on n'invite pas les enfants? Les enfants, ça coûte cher. Il faut payer des nounous, des animateurs. Ça prend deux ou trois tables. Donc, il faut payer le repas, etc.
Les enfants s'animent avec la fête.
Et puis, le problème, c'est quand t'as ton gamin qui dit « Maman, j'ai mal à la tête ». Bon, t'es obligé de le ramener à 10h30. Tandis que quand il n'y a pas les enfants...
Quand il vomit parce qu'il a pris les verres à
20h. Voilà. Quand il n'y a pas les enfants, tu peux te marier, faire la fête jusqu'à pas d'heure. Les couples avec des enfants en bas âge sont très contents de les laisser à papy, mamie.
Tu peux choper la témoin.
Ça vous est déjà arrivé?
C'est des choses qui peuvent arriver.
Ça vous est déjà arrivé?
On enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le...
C'est extraordinaire. Alors ça, venez parler des mariages no kids. Ça, ce sera à 12h30 dans Estelle Midi. Et puis à 14h, revenir vivre là où on a grandi. Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? Il y a de plus en plus de trentenaires en fait qui reviennent dans leur ville, la ville où ils ont grandi, où ils étaient enfants.
Dans le ventre de ta mère aussi, tu peux.
Oui, souvent c'est parce que effectivement, t'as tes parents qui sont encore là-bas, donc tu peux garder les enfants. Et le tu préfères
les grands enfants.
C'est pas facile. Tu préfères une cuisine ouverte ou une cuisine fermée? Vous savez, c'est une grande tendance, les cuisines ouvertes.
C'est plus sympa,
fermée.
Cuisine
ouverte. Oui, mais fermée, quand t'as des amis, ils te voient pas faire la cuisine. T'as besoin d'être,
parce que tu étais un grand chef cuisinier.
J'ai besoin de montrer à tout le monde.
Je ne cuis que des pâtes. Tu penses que les gens ont besoin de me voir en train de cuire des pâtes?
Franchement, c'est sympa chez vous.
Non, c'est pas sympa chez moi, c'est pas fait pour être sympa.
Mais vous invitez des gens parfois?
Non, j'ai que des animaux.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16. Amusez-vous bien et nous, on se retrouve demain. 9h.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.